Ce balado est présenté par la Clinique du PEPS de l'Université Laval, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec, avec plus de 50 professionnels dans 15 services. Une clinique accessible à tous, à tous les niveaux, pour les gens actifs. Bon épisode! Bienvenue au balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je suis Joannie Fortin et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Geneviève Martin et Roxane Bolduc, toutes deux professeures au département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval. Roxane, vous avez abordé les violences sexuelles comme étant des fois un trauma qu'on a vécu ou quelque chose qui appartient au passé ou encore au présent. On va passer à vous, Geneviève, justement, pour parler de ça, de votre expertise, c'est-à-dire les violences sexuelles. Votre pratique ressemble à quoi?
En fait, moi, j'ai fait de l'intervention de groupe auprès des auteurs de transgressions sexuelles. Et maintenant, je me concentre uniquement en recherche. Alors, ce qui m'intéresse en recherche, j'imagine, c'est ça votre question, c'est vraiment tous les types d'auteurs. Donc, autant ce qu'on appelait traditionnellement des agresseurs sexuels, que ce soit en milieu familial ou extra-familial ou les deux. Je me concentre aussi sur des professionnels qui, dans le cadre de la relation avec la clientèle ont des contacts sexuels que des proxénètes. Donc, tout type d'auteur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment est-ce qu'ils conçoivent et vivent la sexualité, mais aussi leur relation. Pourquoi? C'est dans l'optique de développer, d'améliorer notre façon de les évaluer et d'intervenir auprès d'eux pour diminuer le risque de récidive. Donc, qu'ils vivent, qu'elles vivent de meilleures relations amoureuses, sexuelles, des relations satisfaisantes qui, on l'espère, vont les dissuader d'aller avoir recours à des comportements de violence sexuelle.
Avez-vous des statistiques en ce sens, les risques de récidive, les cas de récidive?
Absolument. Et puis ça, habituellement, les gens sont très surpris d'apprendre qu'ils s'imaginent que les taux sont très hauts de récidive, mais chez les agresseurs sexuels, c'est entre 10 et 15 % qui vont récidiver. Donc, la plupart ne récidivent pas.
Et quand on comprend, puis si c'est trop délicat, là, dites-le moi, je suis vraiment très, très, très curieuse. Bien là, j'imagine que non, mais...
Il n'y a pas grand-chose de délicat.
L'objet du balado. Mais tu sais, ces gens-là qui commettent justement des actes de violence sexuelle, quand ils entrent en thérapie oui. ou en processus de compréhension de leur comportement, qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est-tu parce qu'ils ont vécu quelque chose? Pourquoi ces gens-là sont poussés à avoir des comportements comme ça ou en viennent à des violences sexuelles?
C'est ce qui m'intéressait oui. de comprendre. Oui. C'est pour ça que je suis allée étudier ça en sexologie. Il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas juste un facteur. Souvent, c'est ce qu'on va entendre hein, dans les médias où, bon, on sait bien, par exemple, il a été agressé sexuellement lui-même ou elle-même durant l'enfance. C'est pour ça que... Mais c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Il y a une multitude de facteurs qui interagissent et qui vont varier d'une personne à l'autre. Donc, j'aurais pas une réponse claire à vous donner. Nous, ce qu'on essaye de faire quand on intervient auprès de cette clientèle-là, c'est de déterminer quels étaient les facteurs qui ont entré en compte et quels avaient un poids plus grand. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser aussi comme autre facteur dans la vie de la personne pour protéger contre une récidive? Donc, c'est quoi nos leviers pour aider cette personne-là à vivre une meilleure vie, à se réintégrer, à être plus satisfait dans sa vie?
Puis, c'est quoi une violence sexuelle?
Une violence sexuelle, encore là, le public pense que ça se limite aux agressions sexuelles, mais c'est très large. Mmh. Ça peut aller de l'exhibitionnisme au voyeurisme, au frotterisme. Quelqu'un qui se frotte les organes génitaux contre une personne sans son consentement, souvent dans un endroit public. Le harcèlement sexuel, bien sûr, l'agression sexuelle. L'exploitation sexuelle, ça inclut une panoplie de types de gestes qui sont, dans le fond, des paroles, des comportements, des gestes qui, de nature sexuelle qui ne sont pas voulus ou acceptés par l'autre personne.
Et est-ce que vous voyez aussi des victimes de violences sexuelles? Est-ce que vous travaillez avec ces
clientèles? Moi, je ne travaille pas directement avec les victimes. Par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a une grande proportion d'auteurs qui ont eux-mêmes ou elles-mêmes été victimes dans leur passé.
quand on parle justement d'auteurs de violences sexuelles, c'est quoi le travail qu'il fait avec eux? C'est un travail de longue haleine, j'imagine, mais quand cette personne-là décide bon, d'aller de l'avant pour travailler, pour éviter justement le risque de récidive, comment ça fonctionne le traitement?
Oui, ça va dépendre du type de traitement et du contexte dans lequel c'est offert, parce que souvent, la personne qui se retrouve devant nous, ben, elle va avoir été poussée, disons, à suivre un traitement dans le contexte légal dans lequel elle se trouve. On a des gens qui viennent nous voir d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, et disent, écoute, moi, ça va pas, là, disons, j'ai des fantasmes à propos d'enfants, ça me perturbe énormément.
J'ai pas le goût de passer à l'acte.
Passer à l'acte, ou même, mon Dieu, je suis le monstre de la société, je veux m'enlever la vie, ça peut aller jusque-là, c'est très stigmatisé hein, dans notre société. Donc, aidez-moi. Puis, il y en a qui ont jamais passé à l'acte. Mais la plupart, elles viennent nous voir en contexte légal. Et puis, à ce moment-là, ben, on va déterminer combien de temps on a pour travailler avec eux. On va faire une évaluation approfondie de la personne, de ses besoins, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui l'a amené à poser des gestes comme ça, ou qu'est-ce qui fait en sorte que, disons, des fantasmes, il y a une recrudescence de fantasmes, dans quel contexte, comment elle vit ses relations, est-ce qu'il y a des aspects de sa personnalité, de son caractère qui entre en ligne de compte, comment elle fonctionne sur le plan social. Bref, on évalue tout son fonctionnement, tout son développement psychosexuel, ses comportements sexuels, et on essaye d'aller cibler les besoins les plus urgents et on adapte le traitement selon ses besoins habituellement. On peut faire du traitement individuel ou du traitement de groupe ou bien les deux. Donc, le traitement de groupe, il va porter sur des thématiques particulières. On peut faire de l'éducation à la sexualité, par exemple. On peut travailler sur les cognitions. Des fois, il y a des cognitions qui font en sorte qu'ils excusent un peu le comportement. Là, je veux pas alerter monsieur, madame, tout le monde qui écoute. Mais c'est normal, dans un certain sens, on s'y attend chez les auteurs que s'il n'y avait pas ces pensées-là, ben, la personne, elle serait confrontée à justement tout le caractère méprisant de que la société trouve de ces gestes-là. Donc, elle met en place des pensées, des mécanismes de défense pour continuer à vivre et de pas penser que c'est la pire personne au monde. Donc, ça, on peut cibler ces pensées-là, mm-hmm. entre autres.
Le pourcentage homme-femme par rapport aux violences sexuelles, j'ai un préjugé, j'imagine, qui sera peut-être confirmé, mais est-ce qu'on parle principalement d'hommes? Et si, il y a sûrement des femmes, mais est-ce que le contexte aussi de violence sexuelle est différent chez les hommes et chez les femmes?
Je vous dirais que votre préjugé est sûrement appuyé par la science. On retrouve plus d'hommes auteurs de violence sexuelle. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que les femmes ne consultent presque pas. Donc, okay. On ne les voit pas beaucoup en milieu clinique. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, parce que, notamment dans mon cas, alors que je faisais de l'intervention, il y avait énormément de mes clients qui avaient été agressés sexuellement par des femmes. Et c'est des cas jamais dénoncés. Et c'est souvent la mère, la gardienne, la sœur. Et vous pouvez imaginer, pas parce qu'être agressé par un homme, ça a moins d'impact, mais quand c'est ta propre mère, ben, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et puis peut-être qu'elle est dénoncée, ma mère, celle qui est supposée m'apporter des soins. Il y a des tabous associés à ça. Donc, on voit moins les femmes, il y en a. Il y a des adolescentes et des femmes adultes qui commettent des violences sexuelles. Récemment,
c'est parce que les hommes ne les dénoncent pas, c'est ça? Moins que les femmes qui vont dénoncer des hommes.
Oui, on a moins de dénonciations. C'est tabou de dénoncer le fait de s'être fait agresser oui. sexuellement par une femme. Souvent, les hommes ne voient pas ça comme étant de la violence sexuelle. Donc, ils reconnaissent pas que c'est une agression sexuelle. Ils se sont fait initier. Ouais, c'était cool. Hein? Regarde, tu sais, moi, c'était une femme mature avec qui j'ai eu mes premiers contacts sexuels. Donc, il faut remettre un peu, les amener à réfléchir à tout ça. Mais c'est ça. J'ai mené une étude avec l'Ordre professionnel des sexologues du Québec sur les inconduites sexuelles en milieu professionnel au Québec depuis 20 ans. Et puis, c'est 16 % des cas qui concernent des femmes. Donc, des femmes, que ce soit en milieu de la santé, dans le milieu de la santé mentale ou même à l'extérieur de ces professions-là, qui ont des contacts sexuels avec leurs clients. Souvent, c'est des hommes. Et puis, ce sont elles qui vont le plus loin dans les contacts sexuels. Donc, elles ont des relations sexuelles avec pénétration avec leurs clients. Donc, c'est présent chez les femmes.
On parle beaucoup de consentement sexuel depuis plusieurs années. Est-ce que maintenant que ce concept-là a été davantage mis de l'avant, est-ce qu'on voit des changements ou encore il y a une problématique de société par rapport à ça?
Mais c'est aussi, je trouve que le consentement, il n'est pas bien compris pour tout le monde. Puis moi, ce qui me venait en tête avec l'exemple de Geneviève, tu sais, un homme, si c'est sa babysitter, donc sa gardienne, il va avoir vraiment le « hey, c'est le fun », tu sais, de le twister dans l'autre sens. Donc, mais en soi, ça, ce n'est pas considéré consentement. Donc, la personne peut avoir dit « oui, je voulais avoir une relation sexuelle avec ma gardienne », mais après ça, c'est au niveau légal, le consentement n'est pas bon. Donc, c'est qu'il y a tout plein de règles aussi au niveau légal, au niveau du consentement. Donc, souvent, tu sais, le sans « oui », c'est « non », tu sais, « oui », il faut le verbaliser, mais après ça, les gens, ils savent pas, tu sais, « ah, ça fait un off de faire, hey, est-ce que c'est correct si... » correct, si. Donc, il y a un peu de, OK, mais est-ce qu'on peut le trouver, trouver une petite danse, puis trouver des signes, trouver une façon de venir valider dans le non-verbal? Tu sais, il y a quand même des choses qui sont peut-être plus difficiles à éduquer, en fait, puis à démontrer avec certaines personnes, tu sais. Mais c'est sûr que ça peut être quand même bien de venir le valider à l'oral, mais c'est qu'il y a d'autres subtilités, puis c'est qu'au niveau légal, c'est ça, s'il y a une dynamique de pouvoir, en fait, dans la relation, bien, le consentement ne pourra pas être donné, n'est pas valide. Mm-hmm. Donc, quand c'est un membre de la famille, quand c'est un membre de la fratrie, quand c'est justement gardien...
Un professionnel,
un entraîneur, un coach...
Un patron.
Un professeur, un enseignant. Toutes ces choses-là, c'est une dynamique de pouvoir que le consentement est tacite, n'est pas valide. Donc, il y a tout ça, puis il y a aussi au niveau de l'âge, là, mais là, je ne sais pas si je m'embarque là-dedans. Non? Parfait.
Moi, j'allais juste rajouter, en fait, on en a beaucoup entendu parler. Je pense que les gens sont sensibilisés au consentement sexuel. Même certains disent « je ne suis plus capable d'en entendre parler ». Mais on se rend compte que la réelle compréhension de ce que c'est que le consentement sexuel et surtout, comme disait Roxane, la négociation du consentement avec les partenaires, ça, c'est complexe.
Okay.
Et surtout chez les jeunes, ils disent, là, pas un autre adulte qui va me parler de consentement sexuel, s'il vous plaît, mais aïe, j'ai de la difficulté à savoir comment gérer ça avec mes partenaires. Donc, il y a encore un gros travail à faire là-dessus.
Quand le mouvement MeToo est embarqué, toute la notion du consentement sexuel aussi a suivi. Il y a plein d'hommes autour de moi qui m'ont dit « je ne sais plus comment agir, je ne sais plus quoi faire, on dirait que je vais lever la main puis on va m'accuser d'une agression sexuelle. » Tu sais, je fais un portrait, un big picture de la situation, mais il y a beaucoup d'hommes qui m'ont parlé de ça, qui se sentaient tellement incertains dans tout ce qu'ils allaient dire, tout ce qu'ils allaient faire. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Ou même des jeunes, tu sais, on parlait justement des jeunes qui apprivoisent la sexualité avec des premiers partenaires. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces gens-là pour s'assurer de ne pas faire de mauvais pas alors qu'ils veulent tellement pas en faire qu'ils vont peut-être baquer à ce niveau-là, tu sais?
Ben, moi, je dirais, moi aussi, dans mon environnement, j'ai eu beaucoup de ces commentaires-là de la part d'hommes, mais on est toujours deux hein, dans une relation. Donc, moi, il y a beaucoup de mes amis qui sont professeurs, soit au cégep ou à l'université, qui me disaient « ah, plus jamais je vais recevoir d'étudiantes dans mon local avec la porte fermée ». Ben, peut-être qu'on peut le demander à la personne. Soit-tu qu'on ouvre la porte, qu'on la laisse fermer. Mm-hmm. Ou ça se négocie à deux, ça. C'est dans des petits gestes comme ça. Donc, on considère l'autre. Et puis, c'est pas juste nous, c'est une danse à deux, ça.
Puis ce qui me venait aussi, mais après ça, c'est que c'est tellement du cas par cas puis que ça peut être difficile de l'interpréter ou de le prendre, mais il y a quand même quelque chose dans l'approche. Donc, tu sais, si, admettons, quelqu'un vous plaît à la table du café, par exemple, hein, juste prendre cet exemple-là, mais ça peut être « Hey, je suis vraiment désolée, je ne veux pas vous déranger, mais hey, je vous trouve particulièrement charmante, tu sais. » Puis ça peut être juste un commentaire comme ça. Puis oui, il y en a, si ça fait 10 fois qu'ils se le disent, bien, ça se peut qu'ils soient tannés. T'sais. Puis là, ça peut être très bien pris par une personne, puis une autre personne peut être, « Hey, là, je suis un peu tannée là, de me faire dire ça à chaque fois. Là, quand je sors de chez moi, ça devient du harcèlement de rue, en fait. » T'sais. Donc, c'est là que c'est... On essaie de faire attention, puis de juste faire, « Hey, je veux pas déranger, mais... » Très beau sourire.
Et c'est quoi le contexte? Je veux dire, est-ce que c'est dans mon intérêt de commenter sur le physique de ma collègue? Est-ce que ça se prête? Est-ce qu'on est en train d'avoir comme expérience au travail? Probablement pas. Donc, c'est de se questionner à savoir où est-ce qu'on est, comment la personne va recevoir ça. Est-ce que c'est indiqué dans cette situation-là?
Puis est-ce qu'à l'inverse, il y a de la surréaction aussi? Suite au mouvement MeToo, quelqu'un, par exemple, qui va se faire complimenter par un collègue ou... J'ai déjà entendu l'exemple d'une personne au gym être en train de s'entraîner, puis il y a quelqu'un dans le gym qui vient lui dire qu'il la trouve belle. Et cette personne-là, outrée, « Ben voyons, tu me regardais durant tout ce temps-là, tu sais, comme s'il y avait eu acte de vulgarité, là, tu sais. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des réactions des fois qui sont trop fortes?
Bien, c'est plus... C'est parce qu'il y a tellement de choses en arrière. Tu sais, justement, si la personne, elle se fait seulement voir par son corps, à un moment donné, oui, elle peut être écœurée. Puis c'est genre, je suis pas juste un corps, je suis une personne. Puis des fois, c'est comme, je viens au gym, je viens pas pour ça, tu sais. Je reviens beaucoup avec ce terme-là, là, puis c'est un running gag entre collègues, là, mais c'est pas ça le décorum, là. Tu sais, je viens au gym, je suis dans ma bulle, fous-moi patience. Fait que, tu sais, il y a aussi ça, des fois, malheureusement, c'est qu'on n'a pas accès à tout, tu sais. C'est comme, c'est une accumulation de commentaires, puis à un moment donné, c'est genre, hey, sérieux! Mais c'est pas... C'est plein de choses derrière.
Et parlons consultation, parlons traitement. Quand on décide d'aller de l'avant pour aller consulter un sexologue, une sexologue... À partir du moment où on a notre rendez-vous, là, on est en voiture, on se rend jusqu'au bureau, mettons que c'est en présentiel, je suis vraiment stressée parce que là, j'ai l'impression qu'on va aller gratter des petites bébites dans le fond de mon tiroir de mon enfance. Là. Démystifions le côté traitement de la chose. Ça ressemble à quoi quand on va consulter?
Donc, la première rencontre, en fait, comment
oui,
ça va?
Ben oui.
Ben c'est tout le temps un petit bonjour. Moi, j'ai tout le temps, je prends le temps d'avoir un appel téléphonique. Pour juste savoir, hey, je suis la bonne professionnelle pour vous? Hein? Parce que des fois, c'est pas parce que c'est de l'ordre de la sexualité ou du relationnel que c'est nécessairement moi. J'ai quand même des limites professionnelles. Donc, lorsque c'est un auteur d'agression sexuelle, ben, si la personne consulte pour ça, je la prends. Ben, moi, ça ne fait pas partie, en fait, de mon caseload, là, qu'on dit, donc de la clientèle que je dessers. Donc, moi, je vais référer. Donc, outre le téléphone, ben la première rencontre, c'est vraiment, on va prendre le temps, on va clarifier, on va parler c'est quoi le cadre, c'est quoi le formulaire de consentement. Tu sais, il y a quand même des petits aspects techniques des fois qu'il faut cadrer. Hein. Avec un ordre professionnel, il faut qu'on sache sont où les limites. On présente ça, puis c'est là aussi de faire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est la première fois que vous consultez ou non? Tu sais, c'est quoi vos attentes? Si la personne a déjà consulté, ben qu'est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que ça cadre avec comment moi je fonctionne? Puis carrément de qu'est-ce qui vous amène à consulter? Et là, je dois faire mon évaluation sexologique. Donc, ça fait combien de temps que c'est présent? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que... Moi, j'aime souvent dire, si on avait à faire une ligne du temps de la difficulté, ben comment vous la comprenez, en fait, s'il y a une certaine évolution? Est-ce que dans telle relation, c'est plus présent, dans d'autres, c'est moins présent? Donc, on essaie de tout cadrer puis de voir un peu les facteurs là, pour, après ça, cibler pour notre travail. Donc, à chaque fois qu'on fait une intervention, il faut que ça soit basé sur une évaluation. On n'est pas, vous me dites consulter pour ça, on va faire ça. Il faut vraiment venir trouver l'unicité de la personne qui se trouve devant nous. Donc, ça ressemble vraiment à ça, là, les premières rencontres, ou la première rencontre du moins, là, c'est une évaluation sexologique pour après ça, qu'on s'entende ensemble, comment est-ce qu'on comprend la difficulté et comment qu'on va le travailler. Mm-hmm. Donc, on fasse un plan d'intervention. Moi, je suis beaucoup dans la co-construction, donc de mettre la place, donner la place en fait à la personne qui consulte, donc à la clientèle, puis de faire « OK, c'est comme ça, vous le comprenez. » Moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'on pourrait le travailler de telle manière. Est-ce que ça vous convient? Bon, bien, parfait. Puis après ça, on tombe dans l'intervention.
Diriez-vous que c'est important de, entre guillemets, magasiner son thérapeute, de bien le choisir? Tu sais, oui, par rapport au champ d'expertise, mais je ressors d'une première ou de deux rencontres, puis j'ai l'impression que le fit n'est pas là. Ça se peut-tu, ça?
Oui. La seule chose que je vous dirais, c'est soyez patiente. Oui. Sans être patiente pendant 15 séances, là, mais comme dit Roxane, je pense que les gens, ils s'attendent à ce que la première rencontre, on parle tout de suite, on soit dans l'intervention. Et puis, on ne peut pas aller là tant qu'on n'a pas bien saisi ce sur quoi on doit intervenir, mm-hmm, avec la personne. Donc, fiez-vous pas peut-être à ces rencontres d'évaluation-là. Attendez de voir comment s'installe l'intervention. Puis oui, c'est tout à fait correct de dire « il me semble qu'on n'a pas tant d'atomes crochus, puis je suis pas certaine que le climat s'installe ou je me sens bien d'aller me livrer avec cette personne-là. » Puis c'est tout à fait correct d'aller voir si on veut consulter une autre personne.
Moi, c'est sûr que c'est mon petit... J'aimerais ça que tout le monde fasse ça, mais après ça, je sais que ça demande quand même beaucoup... ça prend beaucoup de change, là. Mais ce que je vais dire, c'est aussi oser le nommer au sexologue, tu sais. Après ça, c'est sûr qu'il faut faire face à la réponse, là.
Plutôt que ghoster en bon français.
Non, mais même...
Tu peux venir à ses rendez-vous.
Ça arrive que moi, je vais dire quelque chose, puis peut-être qu'on se comprend pas. Puis oui... Professionnellement, c'est mon rôle de faire on dirait que ça a pas fait écho ou ça a pas résonné pour vous, tu sais.
Ou peut-être que la personne l'a mal interprété.
Oui, ça arrive. Et donc, à un moment donné, quand le lien est là, on en vient aussi à pouvoir faire confiance à l'autre qui va nous dire « Hey, quand tu as dit ça la semaine passée, je l'ai interprété de telle manière. » Puis là, des fois, je suis comme « Hein? C'est ça que vous pensez que j'ai dit? Pourtant, c'est pas ça, tu sais. » Fait que là, tu sais, parce qu'on a toutes nos manières d'interpréter certaines choses, on a aussi notre système de valeurs, de connaissances. Donc, justement, tu sais, il y a l'exemple de la personne, elle arrive, puis c'est pas en 15 minutes, je vais faire « Ben, vous êtes normal » ou « Ça, c'est normal. Mmh. » Je normalise quoi? Je le sais pas. Tu sais, je pourrais dire « Oui, c'est normal que vous masturbez une fois par jour. » Mais si vous me dites après que vous masturbez pendant 12 heures puis qu'il y a des blessures, ben non. Donc, c'est pour ça que moi, je suis comme là, il faut faire attention à la normalisation. Mm-hmm. Je peux normaliser après quand j'ai toutes les connaissances. Donc, c'est là aussi dans l'intervention qu'il faut faire attention. Mais oui, dans le magasiné, on est dans un monde en ce moment que c'est beaucoup de listes d'attente. Puis, il y a quand même une pression de « Ah! » La seule personne qui m'a rappelé, parce que ça aussi, c'est un fléau qui arrive, la seule personne qui m'a rappelé, elle a un créneau. Je suis pas certaine parce que ça fait peut-être moins dans mon approche ou qu'est-ce que je veux, là. Mais c'est la seule qui est disponible, fait que je vais la prendre. Puis on peut être agréablement surpris. Mmh. Tu sais, y en a qui vont arriver aussi avec certains critères. Puis c'est encore une fois, c'est à nous à nommer ces choses-là puis à le recueillir. « Hey, t'as pas aimé ça quand que je te dis que moi, je te donne pas des devoirs. OK, ben ça se peut que je suis pas la bonne personne parce que moi, c'est pas comme ça que je travaille. » Tu sais, puis il y a des affaires que ça se module puis c'est moins « peut-être je suis pas la bonne personne. » Tu sais, je vais moi-même voir « Ah, OK, ben pour vous, c'est difficile telle chose. Ben on va le travailler différemment parce que c'est moins évident, tu sais. » C'est à nous à s'ajuster également, mais il faut le savoir. Oui, on est très... On regarde le non-verbal et tout, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que la personne porte, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un peu une co-construction, puis c'est à deux, comme toute relation. C'est juste que là, c'est une relation de travail, c'est une relation d'intervention.
Pis ça dure combien de temps, une thérapie? Puis je vais-tu sortir guérie, moi, de ça? Ben, ça doit être une question qu'on vous pose, j'imagine.
Oui.
Vous n'allez pas aimer la réponse.
Non, ouais, c'est, ça dépend. Pas.
Ça dépend. Moi, je le mets dans mon formulaire de consentement et sur mon site, mais l'unicité de chaque être humain fait qu'on ne peut pas dire hey, « Toi, pour telle problématique, ça va être 10 rencontres, ciao, bye, c'est fait. » Ou « Toi, ça va te prendre 10 ans, le non. » Comme, on ne le sait pas. Après ça, selon les objectifs, si je sais, moi, qu'on est plus dans le court terme, donc 10 à peut-être 30 rencontres, je sais que c'est une grosse affaire, là, mais pour moi, ça, c'est du court terme. Ben, les objectifs vont être différents que si on se dit, ben, on a un an, puis plus, là, si on peut. Alors ça, il y a tous les enjeux au niveau financier, puis tous les systèmes de pression actuels, bien sûr.
Et puis, je dirais, où la personne veut aller dans son cheminement également. Si elle est là pour grandir au long cours, c'est sûr que 10 ans, c'est très rare. Là, on fera pas peur aux gens. Là. Mais habituellement, c'est que ça peut aller à quelques années.
Oui. Fait que ça dépend comment qu'on travaille, puis ça dépend les objectifs, la cible. Si on cible la communication, savoir un peu c'est quoi nos triggers, les comprendre, ça peut se faire à court terme. Ça dépend à quel niveau on veut venir le travailler. Puis à un moment donné, c'est ça. On a plusieurs bébites dans la vie, puis ça veut pas dire qu'on va toutes les faire.
Puis votre terme guéri, c'est rare qu'on guérit. On va aller chercher des outils en intervention pour faire face à ce qui se présente à nous. Donc, c'est ça que ça peut amener de l'intervention, mieux se connaître en relation et puis mieux négocier ce qui se passe. Mais si on a un problème ou une difficulté au long cours, oui, ça se peut que l'intervention permette de passer outre ce problème-là, mais en plus, ou au moins, minimalement, on va avoir des outils pour gérer ça.
Est-ce qu'une combinaison entre la thérapie, la consultation et une médication, dépendamment des cas, mais au besoin, peut être vraiment de super beaux compléments?
Si c'est des enjeux de santé mentale, en fait, c'est une grande recommandation qu'on fait, c'est de jumeler les deux. Parce que seulement un médicament,
c'est souvent pas suffisant. On va pas faire le travail de fond.
Oui. Donc... Moi, c'est là que je vais avec mon image. Puis là, peut-être qu'il faudra trouver en français. Là, mais est-ce qu'on veut mettre un band-aid ou est-ce qu'on veut enlever le bullet wound? Est-ce qu'on veut enlever la balle? Tu sais? Donc, si on veut faire le travail de fond, ça serait de jumeler les deux. Puis souvent, il y a des professionnels de la santé qui vont avoir qui vont le nommer. Tu sais, est-ce que tu as un suivi en psychothérapie? Est-ce que tu as un suivi avec un professionnel de la santé qui n'est pas un médecin? Tu sais, parce que c'est le médecin qui fait la prescription de médicaments, mais c'est ça. C'est un monde des fois utopique, mais on veut vraiment collaborer avec ces choses-là, parce que des fois, c'est notre rôle à nous de recommander d'aller en parler avec un médecin pour qu'il y ait une évaluation à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas faire une évaluation au niveau de la santé mentale, outre les troubles sexuels lorsqu'on est sexologue, psychothérapeute. Donc, c'est à nous, les professionnels, de flaguer ça, mais après ça, il faut aller chercher ces professionnels-là.
Et selon vous, ce serait quoi les solutions pour rendre justement l'accès à la consultation plus facile dans un monde idéal, là, un monde peut-être utopique, là, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça plus accessible?
Qu'il y ait encore de plus en plus, en fait, sexologues dans le réseau. Après ça, on sait que le réseau, en ce moment, ça peut être assez difficile lorsqu'on y travaille de ne pas être en burn-out et tout, parce que les conditions ne sont pas optimales pour le caseload et tout ce qui est au niveau de la gestion, mais on s'entend que c'est par le réseau qu'on a une accessibilité puis que ça devient un processus gratuit. Il y a de groupes, il y a d'individuels. Donc, puis il y a les centres communautaires. Là, il y a plusieurs sexologues. Il y en a qui offrent des suivis court terme, qui peuvent alléger. T'sais. Donc, des fois, c'est sûr que ça peut être pour certaines personnes plus facile d'aller consulter en privé ou que, vu qu'ils ont déjà vu un travailleur social ou un psychothérapeute ou un psychologue, c'est peut-être plus facile d'aller de cette route-là. Mais il ne faut pas oublier que habitez dans votre quartier, vous, il y a des centres communautaires, puis il peut y avoir de l'aide qui est fournie. Osez aussi à aller peut-être à plus petite échelle pour, s'il y a une grande détresse, bien sûr, pour que ça soit allégé, mais après ça, de voir, OK, est-ce que je peux aller voir pour continuer de creuser?
Moi, je pense que c'est une meilleure connaissance du public de ce qu'on offre comme service. Et puis aussi une meilleure collaboration interprofessionnelle. Souvent, la porte d'entrée dans le système de la santé, c'est l'urgence, c'est le médecin de famille. Mais il y aurait moyen de décharger cette porte d'entrée-là en répartissant les problématiques ou les thématiques pour lesquelles les gens viennent consulter aux professionnels qui sont capables d'intervenir dessus. Donc, une meilleure collaboration, à mon avis, ça pourrait déjà désembourber un peu le système.
C'est déjà la fin, mesdames. La dernière question et non la moindre. Si vous aviez à prendre rendez-vous, puisque le balado s'appelle Santé sans rendez-vous, si vous aviez à prendre rendez-vous avec quiconque, un personnage fictif, mort, vivant, historique, peu importe, il n'y a pas de contexte, si vous aviez à prendre rendez-vous avec quelqu'un, ce serait qui et pourquoi?
Moi, j'irais pour Viktor Frankl. C'est un homme qui, quand il était jeune, a été envoyé au camp de concentration à des nazis. Il a côtoyé le côté le plus sombre de l'humanité et il a décidé, c'est l'espoir qui l'a tenu pendant tout ce temps-là, l'espoir de retrouver son épouse qui au final était décédée, mais il ne le savait pas, il l'a su après quand il est sorti. Mais il a décidé de consacrer sa vie à soutenir les gens dans la souffrance. Donc, il est passé vraiment, il a vu le plus noir pour aider les gens. Il est devenu psychiatre et c'est un humaniste qui a fait quand même de très belles choses. Il a produit un livre sur le sens de la vie. Donc, essayer de faire sens de toute cette noirceur-là, je le trouve fascinant, je le trouve immensément inspirant et j'aurais donc aimé pouvoir lui parler.
J'ai eu le flash de à qui j'avais pensé puis que j'avais momentanément oublié. Moi, la personne existe encore, est encore de ce monde. Moi, c'est Dr. Yalom. Parce que c'est une personne qui a beaucoup écrit sur l'approche dans laquelle je me spécialise, donc l'humanisme existentiel. Et j'aime particulièrement sa manière d'aborder ses propres enjeux hein, comme professionnel, puis aussi d'être au contact de l'autre. Il y a un livre, j'oublie c'est quoi en français, là, si je le retrouve, je pourrais vous donner la référence, mais « The Gift of Therapy » en anglais. Puis c'est vraiment un guide pour des futurs intervenants, intervenantes, puis c'est des petits chapitres, c'est avant le dodo, c'est parfait. Mais c'est vraiment « Hey, avec telle personne, tu sais, j'ai été confrontée à ça. » Donc, c'est vraiment passionnant. Puis le petit dernier que j'ai hâte de lire, c'est qu'il a rédigé avec sa femme qui est décédée. Je pense qu'elle avait un cancer. Puis elle, c'était une écrivaine. Donc, les deux, ils l'ont écrit ensemble pour avoir les deux perspectives comme partenaire. Je sais. Puis de voir des professionnels qui abordent nous là-dedans comme professionnels, de manière très humaine, humble aussi. Puis de genre, hey, là, j'ai fuck up, là, tu sais. C'était pas correct. Puis, hey, ça, c'était donc beau. T'sais. Donc, vraiment de voir, ben oui, on est parfaitement imparfaits, nous aussi. Puis, comme professionnels, c'est à nous à reprendre lorsqu'on fait des fuck-up un peu ou quand il y a des failles empathiques. Est-ce qu'il faut que je change mon mot?
Tu te sens tabou, je pense, aujourd'hui? Belle rencontre.
Fois deux.
Avec mesdames, deux professeurs sexologues et professeurs dans le baccalauréat en sexologie, oui, de l'Université Laval. Geneviève Martin, Roxane Bolduc, je vous remercie énormément. J'aurais pu m'entraîner avec vous pendant des heures. À un moment donné, il faut que ça se termine, mais je suis très reconnaissante d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui.
Merci à vous.
Ce balado était présenté par la Faculté de médecine de l'Université Laval en collaboration avec la Clinique du PEPS, la plus grande équipe en médecine du sport et de l'exercice à Québec.